Regarde-moi ça. J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh. Ça c'est de la vie, je crois. Ah, c'est magique cet endroit.
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en Afrique avec Max, qui a fait du bénévolat pendant son tour du monde. Et je suis très content d'aborder cette thématique du bénévolat parce que c'est une thématique que j'essaie d'aborder de plus en plus parce que pour moi, c'est une façon incroyable de voyager. C'est une façon en plus pas chère de voyager et on peut vivre des choses peut-être encore plus fortes que si on faisait les choses pour soi que quand on le fait pour d'autres personnes. Et je suis vraiment ravi que tu sois là avec nous, Max, parce qu'en plus, tu l'as fait dans un pays qui est très peu connu, qui est le Zambie. Je pense que tu as plein de choses à nous dire parce qu'il y a plein de gens qui disent mais qu'est-ce qu'il a été faire là-bas et où est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc, comment tu vas déjà avant d'entamer ce podcast?
Alors, salut Alex, bah, écoute, ça va très très bien. Tout d'abord, je suis très très content de pouvoir échanger avec toi parce que ça fait un petit moment que je te suis. Et je suis aussi très très content de pouvoir partager mon expérience avec ta communauté. Et puis, j'espère que je leur donnerai un petit peu envie aussi de partir. De partir et puis de faire un peu de solidarité comme j'ai pu faire parce qu'on vit dans un monde qui en a, je pense, vraiment besoin.
Et je suis convaincu de ça, mais d'ailleurs, c'était... Pourquoi le choix de l'Afrique? C'est, tu sais, surtout parce que... Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que t'étais vraiment pendant un tour du monde et l'Afrique, c'est clairement un pays délaissé par les backpackers pendant leur tour du monde. D'ailleurs, moi, le premier... je l'ai éclipsé parce que c'est des fois un peu relou, en tout cas ça l'était bon, au moment où je l'ai fait en termes de connexion de vol et de billets un peu tour du monde. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que toi tu y es allé?
Alors c'est une excellente question parce qu'en fait, pour être tout à fait franc, moi je suis parti faire mon tour du monde en octobre 2018 et ce n'était pas prévu. L'Afrique n'était pas prévue dans mon tour du monde en fait.
Ah.
Ça veut dire qu'on a commencé par l'Asie. Alors moi je suis parti avec ma petite amie qui s'appelle Marion. Marion, exactement. On a fait pas mal de volontariat dans tous les pays, enfin dans certains pays en tout cas qu'on a pu faire durant ces 8 mois de voyage pour elle et 9 mois pour moi.
Et donc en fait, le bénévolat a été... une thématique récurrente dans ton tour du monde.
Exactement.
Et tu l'as pas fait uniquement aux Zambie en fait. Ça a ponctué ce voyage.
Non, parce qu'en fait, si tu veux, alors voilà, juste pour la petite histoire, moi j'ai eu envie de faire le tour du monde depuis très longtemps. Je lis beaucoup de romans d'aventure, des BD comme Tintin. En plus ça va forcément te parler un peu plus que quelqu'un d'autre, on sait un peu pourquoi, mais voilà. J'ai vu pas mal de films, etc. Bon, et c'était une période de ma vie il y a quelques années où j'étais pas forcément très très bien dans ma peau. Et du coup, pour moi, le voyage, notamment quand je parle du voyage, c'est l'aventure en soi. Ça a été une forme d'échappatoire pour moi. Et à un moment donné, si tu veux, quand tu lis beaucoup et que tu vois beaucoup de choses, t'as aussi envie de vivre ça pour toi, quoi, de te mettre un petit peu en situation. Et puis, je pense un petit peu de m'échapper aussi par rapport à mon quotidien, etc. Donc voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'avais prévu de faire mon tour du monde seul, sous une forme un petit peu, tu vois, de voyage initiatique ou de quête personnelle. Sauf que la vie fait, la vie est ce qu'elle est, et je me suis mis avec Marion, en fait, entre temps.
Et merde, et à ce moment-là, boum, fallait que je me retrouve en couple. Ah bah merci Marion, quoi.
Donc je me suis mis avec Marion, et il se trouve que Marion, c'est une fille qui a beaucoup voyagé avec ses parents quand elle était petite, qui a été aux Éclaireuses de France pendant très longtemps et qui, à 14 ans, partie faire une mission de volontariat au Sénégal avec son asso pour replanter la mangrove. Enfin, donc Marion, si tu veux, elle avait ça, elle, dans le sang depuis toujours. Et quand je lui ai parlé de mon projet de partir faire un tour du monde, t'imagines bien que là, bah, j'étais le mec parfait.
Ah, le mec, il s'est vendu au comptoir. T'as dit que t'es tombé dessus, mais t'as un petit peu cherché. Ouais, je vais faire un tour du monde. Ouais, j'ai lu 2-3 bouquins.
C'est ça, Marthe, figure-toi. Donc du coup, voilà. Après, on en a forcément beaucoup parlé parce que là, on plaisante, mais ça a été une grande décision pour elle parce qu'elle n'était pas du tout prête à ça. Elle avait son, si tu veux, son petit parcours de tracé, etc. Donc forcément, ça a été, même pour ses parents, ça a été un petit peu difficile à accepter au début. Mais en fait, du coup, on a dû revoir la problématique du sens. Parce que si tu pars faire un tour du monde à deux, forcément, ton tour du monde n'a plus le même sens que si tu pars seul. Et donc, en fait, moi, j'ai eu aussi une expérience en Chine. Quand j'avais 19 ans, je suis parti en Chine pendant un mois pour en fait développer le premier club de football de la ville de Chengdu. Donc, Chengdu, c'est une ville, une
Ah bah
petite ville
ouais.
de Chine de 14 millions d'habitants.
Ouais, non mais attends, Chengdu, c'est en plus c'est très étudiant, c'est sympa Chengdu.
Exactement, ouais. Je suis parti là-bas à 19 ans pendant un mois. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais fait déjà une petite expérience un petit peu là-dedans, quoi.
Ouais.
Marion aussi avec son expérience notamment au Sénégal. Et quand on a parlé tous les deux du sens qu'on voulait donner à ce tour du monde, bah, par la force des choses, on est forcément arrivé à ça, quoi, hein, à la solidarité internationale, à des projets de volontariat, etc. D'autant plus que je connais un petit peu de monde qui a déjà fait ça, donc forcément, voilà, quoi, ça a été la trame de notre construction de voyage, quoi. Ouais.
Donc, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a vraiment une réorientation de quête personnelle, plaisir personnel, accomplissement personnel, et au final de se dire, et on peut pas le faire que pour nous. Je pense que toi, comme elle, il y avait une envie d'essayer peut-être aujourd'hui d'être plus en phase avec le monde, parce que c'est peut-être un peu ça en fait, c'est de se dire aussi aujourd'hui le monde il a besoin d'un peu moins d'égoïsme et peut-être d'un peu plus d'altruisme. Et ça vous a injecté ce thème-là dans votre tour du monde.
Exactement.
Mais ça répond pas à la question du pourquoi l'Afrique en fait.
Alors, pourquoi l'Afrique? Donc, nous, on a commencé par l'Asie. Donc, brièvement, on a fait le Cambodge, Bali, le Vietnam et Hong Kong. Mais Hong Kong, parce que j'avais un pote qui vivait là-bas, donc c'était que 4 jours.
Ouais.
Et on a fait du volontariat, en fait, à Bali.
OK.
Donc Bali, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin ce que certains peuvent penser en tout cas, c'était pas que les surfeurs sur les plages, les surfeurs australiens, etc. Même si c'est une petite île et que t'as beaucoup de tourisme aujourd'hui, nous on était, si tu veux, dans une école au fin fond des rizières, dans la région de Tabanan, dans l'ouest de Bali. C'est au-dessus du Tanalot, pour ceux qui connaissent un petit peu, à une heure
D'accord.
au nord-ouest de Tanalot, du Tanalot, pardon. Et donc ça, je pourrais peut-être parler de Bali un petit peu plus tard, mais tout ça pour dire qu'on a eu une expérience formidable à Bali. Donc après, on est parti au Vietnam. Et au Vietnam, je reçois un mail via Workaway. Donc Workaway, j'en parlerai aussi plus tard, parce que pour moi, c'est hyper important d'en parler, parce que c'est
Non,
un
mais on peut
site
faire
qui
la
a...
parenthèse tout de suite et dis-moi si je me
D'accord.
trompe, Workaway. C'est comme Helpx, ce sont deux
Oui,
plateformes qui permettent de
exactement.
trouver en fait des missions de bénévolat à travers le monde et des missions de bénévolat qui ne sont pas que, contrairement au woofing, liées à la ferme, c'est lié en fait au bénévolat. Donc ça peut être enfin filer un coup de main en anglais dans une petite école. Si t'es mécanicien, ça va être aussi filer un coup de main, je sais pas, dans
Pour réparer un 4x4
un
perdu au
4K
fond de la jungle.
ou
Oui,
voilà, quelque chose dans un village qu'on a besoin et qui a besoin de quelqu'un qui ou un charpentier parce que dans un village ils sont en galère et qu'ils savent pas faire et qu'ils ont envie d'apprendre. Donc c'est tout et en fait, tu peux te rendre utile à travers plein de missions de bénévolat. Voilà. Et du coup, tu reçois un
exactement.
mail parce que tu étais
Et je reçois
inscrit.
un mail. Exactement. Alors moi, j'étais inscrit parce que je suis parti en Chine, tu sais, comme je t'ai dit, à 19 ans, via
Ouais.
Workaway, en fait, pour faire mon stage dans un club de foot en Chine. Et donc j'étais, enfin, tu vois, la vie, c'est incroyable, je veux dire. Donc je fais mon stage en Chine à 19 ans, j'en ai aujourd'hui 23. Et 4 ans plus tard, je reçois un mail d'un Africain, juste 2 semaines après que j'ai fait un volontariat à Bali, pour me proposer de venir en Afrique, quoi. Moi, enfin là, je ne peux que croire au destin.
Alors, t'as pas
Et
cru que
c'est...
c'était parce que des mails d'Africains qui ont besoin d'aide sur ma boîte mail, j'en reçois souvent, et
Ouais.
demandent des sommes un peu astronomiques parce que toute leur famille et leur village ont besoin d'argent.
Bien
Donc,
sûr.
qu'est-ce qui a fait
Non.
que t'as cliqué? C'est parce qu'on est bien d'accord que ça venait de la plateforme Workaway et
Oui,
que du coup, t'as été
exactement.
vérifié, on va dire, le bien fondé de la mission et du village, j'imagine?
Bien sûr. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en l'occurrence, ce fameux Aldridge, donc c'est l'homme qui m'a contacté, venait de créer une école, en fait. Donc là, on est en décembre 2018, et le projet de création de l'école était pour février 2019. Donc, en fait, il recherchait des volontaires, parce que de toute façon, là-bas, bon, j'expliquerai un petit peu plus après en détail l'Afrique, mais ils avaient besoin de volontaires pour structurer un petit peu l'école, et puis pour avoir des compétences qu'ils n'ont pas forcément sur place, quoi.
Bien sûr.
Et donc du coup, l'Afrique ne faisait pas partie de notre tour du monde avec Marion parce qu'elle ne voulait pas forcément y retourner. Et moi, c'était un petit peu frustrant pour moi parce que moi, pour le coup, je voulais y aller. Donc en fait, bah, écoute, je me suis dit, bah, moi, je ne suis pas passer par le temps, que je parte 8 mois ou 9 mois, c'est exactement la même chose, parce que j'avais fait en sorte de ne rien avoir à mon retour pour ne pas être dépendant de quelque chose.
Ouais.
Et donc j'ai forcément un petit peu échangé avec lui, hein. Je veux dire, j'ai pas le soir même, je n'ai pas dit OK, hein. Je me suis renseigné avant, on a envoyé plusieurs mails, etc. La mission qu'il me proposait m'a beaucoup plu.
Qu'est-ce qu'il te proposait?
Donc travailler dans une... Alors, en fait, lui, c'est un Zambien qui a une chance énorme puisqu'il a pu partir en Europe quand il avait une vingtaine d'années pour ses études, ce qui est très très rare. Hein. En moyenne, tu as entre 15 et 20 Zambiens qui partent en Europe par an. Et ils sont 17 millions d'habitants là-bas. Donc, t'imagines le pourcentage.
Okay, donc, le mec n'était pas mauvais à la base quand même.
Le mec n'était pas mauvais à la base. Et quand il a vu ce qui s'est passé, notamment en Suède, parce qu'il est parti en Suède, en fait.
Ah, en plus il est parti. Ok, ça a dû lui faire bizarre de revenir.
C'est clair. Et là, il s'est vraiment dit, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose pour mon pays, quoi. Et donc, il a créé cette école, et puis, et il se trouve qu'il a en plus monté un petit club de foot du village, parce que là-bas, si tu veux, alors là, l'Afrique, c'est un continent, bien sûr, mais après, je pense que tous les pays de l'Afrique australe, c'est un petit peu la même chose. Le mot d'ordre là-bas, c'est la nonchalance, c'est ce qu'on appelle l'African time, quoi. Hein. Il fait tout le temps chaud, les gens, on a du mal à les mettre en mouvement, quoi, tu vois. Et donc, en fait, créer un
club
de...
T'as du mal à les mettre aussi à, on va dire, au rythme européen, frénétique européen. Parce que c'est pas la même mentalité non plus. Et des fois, j'imagine que le problème aussi, c'est que quand toi, tu montes un projet à la frénésie européenne, t'arrives là-bas, t'es confronté à une autre vision de la vie.
C'est très compliqué de faire ça, Alex. Tu peux pas... En fait, tu ne peux pas... Je pense partir en Afrique avec et ne pas pouvoir changer ta vision. Tu ne peux pas partir avec un projet sur ton modèle européen et vouloir l'inculquer là-bas. Ce n'est juste pas possible en fait, parce que de toute façon tu vas te heurter, comme tu l'as dit, hein, à leur culture, à leur mentalité qui est différente, et puis à plein de choses quoi. Et donc tout ça, juste pour revenir sur ce que je disais, il a créé aussi ce club de foot pour sortir en fait les jeunes de cette nonchalance, de ce comment dirais-je, rien faire quoi, de tous les jours.
C'était créer de la cohésion et une activité en fait.
Une activité voilà pour les remettre en mouvement.
Qui n'est pas un enjeu un peu où il y a de la pression, des choses comme ça, où on leur dit de faire quelque chose, c'est eux qui ont envie de le faire par eux-mêmes parce qu'ils s'amusent.
C'est ça. Et donc, en fait, il a inscrit cette équipe-là dans un championnat zambien et il cherchait un coach européen parce que moi, je suis coach de football en France, en fait. C'était pas mon métier, mais c'est du bénévolat. D'ailleurs, je reprends cette année. Et donc, voilà, il recherchait quelqu'un pour l'école le matin et le coaching de football l'après-midi. Voilà pour les missions.
Ah génial, donc ça a été ça ta mission, t'étais voilà. Prof le matin et coach l'après-midi, donc tu les avais toute la journée en plus.
Alors c'était pas les mêmes, dans l'école c'était des enfants de 6-10 ans et l'après-midi, alors ça c'est vraiment tu vois un truc qui fait rigoler après coup, mais moi on m'a vendu quelque chose sur Workaway qui n'était pas vraiment la réalité en fait, c'est-à-dire que lui m'a dit que j'allais coacher des jeunes au football. Super, j'adore ça en plus, très bien.
Ouais.
Et je suis arrivé le premier jour, Alex. Donc, il faut savoir que la Zambie, c'est un pays. Bon, forcément, il fait très très chaud, mais du coup, c'est très très sec.
Déjà, et c'est où? Je pense que personne, on l'a pas dit, mais je pense qu'il y en a besoin. Il y a pas mal de gens qui disent ça doit être par là en Afrique, mais je suis pas sûr. Où est-ce que c'est, la Zambie?
Alors, la Zambie, c'est vraiment en plein centre de l'Afrique. C'est en dessous du Congo, au-dessus du Botswana et du Zimbabwe. Donc, en fait, tu vois l'Afrique comment c'est représenté, c'est en plein centre. Grosso modo, c'est ça.
En gros, internaute, si tu prends le sud, l'Afrique du Sud, le fond de l'Afrique, et tu remontes tout doucement, tu vas traverser l'Afrique du Sud, après, tu as un autre pays qui s'appelle le Botswana, tu le traverses et tu arrives sur le Zambie.
Exactement.
Donc, à peu près
ça.
Là.
C'est exactement ça. En dessous du Congo, notamment, etc. Donc
tu arrives là. Et en fait, c'est sec.
C'est très, très sec. C'est très, très sec. Il y a des très belles couleurs, à contrario. Et puis, tu as aussi des arbres magnifiques, accessoirement. Mais par contre, tu vois, il y a beaucoup de terre battue, en fait. Hein. Tout est en terre battue. Et même le terrain de foot sur lequel j'ai entraîné cette équipe était en terre battue. Et encore, c'était même pas de la vraie terre battue. C'était du sable, un petit peu, tu vois. Enfin, c'est très, très loin de nos standards européens ou du moins français.
C'était pas du stabi, quoi.
C'est pas du synthétique ou un truc comme ça, je te confirme, non, ça c'est sûr. Et en fait, je suis arrivé, moi, à mon premier entraînement de football l'après-midi, donc à 15h. Donc, m'attendant voir des jeunes, voilà. Et je vois des types arriver entre 18 et 28 ans, qui faisaient deux fois ma taille, bâtis comme les mannequins Abercrombie, en puissance. Enfin,
Ouais, ils
voilà,
sont
quoi.
chiants les Africains pour ça. Et
Oh
les
là
mecs,
là,
ils ont pas de salle de
incroyable.
sport, ils sont taillés comme des statues grecques, ça fout toujours la rage.
C'est incroyable.
Ah, mais ils
Surtout
sont.
qu'ils mangent des boules de farine matin, midi et soir parce qu'ils ont que ça à manger là-bas avec quelques
J'imagine.
légumes quand ils peuvent. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et donc, tout ça pour te dire que cette notion d'adaptabilité, pardon, elle est fondamentale quand tu pars dans des pays comme ça parce que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber, tu ne sais pas ce qui va se passer, voilà. Donc, tu dois tout le temps être voilà, en train de t'adapter, en train de te
Flexible.
flexier. Exactement, c'est ça, d'être
C'est ce qu'on appelle
flexible.
la résilience. Voilà.
Oui, c'est
C'est
ça.
toujours savoir s'adapter pour pas crever, quoi, tu vois, potentiellement, ou pas perdre la tête.
Voilà, c'est ça. Donc voilà pour mes missions. Et enfin oui,
Non, mais
dis-moi.
je voulais savoir, c'est justement. Donc, t'es arrivé à quel moment de ton tour du monde? C'était à la fin de ton tour du monde, après
Oui.
8-9 mois, c'est ça?
Exactement. On a fait le Canada au mois de mai.
Ouais.
Je devais rentrer donc fin mai avec Marion, sauf que donc il y a ce projet africain qui s'est greffé. Donc Marion est rentrée en France fin mai. Moi je suis parti en fait à Montréal. Elle avait son vol à 18h pour la France et moi à 20h pour le Zambie quoi.
Alors là, je vais te dire que tu viens de passer au moins un mois au Canada, au pays
Oui.
de Bisounoursland, on a un peu un lifestyle trop cool. Puis je vais te dire vraiment, c'est super.
Tu fais bien.
Ah non, pas vraiment, mais en gros, c'est tranquille. Et là, je pars dans le dur, dans une mission de solidarité internationale, en tout cas de bénévolat, dans le Zambie. T'es dans quel état d'esprit avant de prendre cet avion?
Alors, tout d'abord, pour être tout à fait franc, il y a eu une anxiété. Cette anxiété, elle vient du fait que j'ai été 8 mois avec ma copine, H24, hein, tout le temps, forcément. Alors, même si on a bien sûr eu des petits moments pour nous, mais je veux dire, on a été ensemble quand même 99% du temps. Et là, tu te dis que bah, tu prends l'avion pour l'Afrique et tu vas être tout seul, déjà. Ça a été un petit peu ma première anxiété, pour être franc.
C'est bien, ça veut dire que ça s'est bien passé ces 8 mois en couple.
Très très bien, très
Ah
très
bah
très très
écoute.
bien. Et c'était aussi un petit challenge pour nous, donc je pense qu'on l'a relevé haut la main, donc c'est super.
Génial.
Et puis non, voilà, donc moi j'étais très content parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le football et surtout tout ce qu'il y a derrière, en fait, donc tout ce que le football apporte et tout. Et je sais qu'en Afrique, le football, c'est quelque chose de très important pour eux. Et donc moi, j'allais un petit peu, je suis parti là-bas avec beaucoup de bonne volonté, avec plein de projets intérieurs, avec plein de choses comme ça, quoi. Donc forcément, c'était un sentiment partagé entre un petit peu d'anxiété, mais une excitation énorme, quoi, en fait, hein. Tout
Et
simplement.
là, t'arrives, tu prends ton vol. On
Oui.
arrive à.
Oula.
Non, on arrive à quelle. Comment ça s'appelle déjà la capitale du
Ah.
Zambie?
Alors, la capitale, c'est Lusaka, mais moi, je suis parti à Livingstone. En fait, Livingstone,
Livingstone qui est à côté des
c'est
chutes Victoria.
exactement.
Là, je balance un peu ma
Exactement.
science. Voilà,
Exactement,
voilà.
c'est ça, Alex. Et d'ailleurs, j'ai pu aller les voir et c'est juste sublime. C'est
Oh.
comme dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Hein. Je sais pas si tu l'as vu avec Belmondo, mais.
Alors, non, mais t'as quel âge, toi, pour regarder les films de Belmondo?
J'ai 23 ans et figure-toi que c'est mon préféré film en plus. Ça, ceux qui
Sérieux?
l'ont pas vu, il faut absolument le voir ce
Ah bah
film-là.
écoute, et bah tu sais
Regarde.
quoi, tu m'as donné envie de le voir pour dire ça, c'est mon préféré.
Ouais.
Et vu que les
Ah oui.
chutes Victoria, c'est quand même un des plus beaux bijoux naturels du monde,
Ouais.
ça donne envie. Donc t'étais pas très loin de Livingstone, aux
Exactement.
chutes Victoria, tu
Oui.
descends de l'avion, qu'est-ce qui
Oui.
se passe? À partir de là, raconte-nous ton histoire de bénévolat au Zambie.
Alors, donc déjà, il y a eu 30 heures de vol hein, entre. Je suis passé par Doha, puis je suis passé par Nairobi, puis je suis passé par. Et puis après, je suis arrivé à Livingstone avec des escales de nuit à Nairobi, dans un aéroport qui ressemblait plus à une clinique désaffectée, si tu veux. Donc un peu chaud. Mais voilà, donc j'arrive déjà un petit peu déphasé, mais malgré tout, comme je te dis, j'étais très excité, donc forcément, ça reprend le dessus, en tout cas au début. Et là, donc, c'était quand même plutôt bien organisé parce que ce fameux Old Ridge m'attendait dans l'aéroport. Enfin, aéroport, donc j'avais ma voix, enfin il était avec sa voiture, donc pas de problème. Hello Max, how are you? Nice, parfait, tout va bien.
Ah, déjà, je vois que tu parles bien anglais, ça
Non,
facilite. Nanana,
là je suis
right,
mort. Non, ça va. Forcément, après 9 mois, je parle un petit peu mieux. Ouais. Et donc, en fait, donc là, si tu veux, tu arrives dans un endroit qui est complètement différent de ce que tu as pu voir pendant 8 mois, et pourtant forcément on a vu quand même pas mal de choses parce qu'on a fait tous les continents. Tu traverses des petits villages
ça
où tu
ressemble à
vois déjà
quoi?
l'envers du
Genre
décor.
là, on est au carreau de la voiture.
Ouais,
Là,
alors.
il y a le paysage qui défile, qu'est-ce qu'on voit?
Alors, on voit déjà beaucoup d'arbres, des
Arbre.
arbres, ouais, notamment quand tu sors de l'aéroport, parce que très vite, t'en vois plus,
Ah,
ou
d'accord.
beaucoup moins. Et tu vois beaucoup, si tu veux, c'est des petites maisons qui sont construites soit avec de la terre battue, en
De
fait,
la
hein,
daube, ça s'appelle
de
de la
la daube.
daube.
Ouais, c'est exactement ça. Donc, je dis terre battue parce que ça parlera peut-être plus
Ouais. La
aux
terre,
personnes qui ne
ouais, la
connaissent pas
terre cuite, ouais.
l'Afrique, mais ou alors avec du béton. Et c'est des maisons, si tu veux, qui n'ont pas de toit, ou c'est des toits qui sont avec de la, comment on appelle ça,
Enfin, avec des, comme des feuilles, c'est en des toits
c'est
végétaux,
pas,
non? Ou des
oui,
tôles, de la
c'est
tôle.
exactement de la tôle, merci Alex, c'est ça, c'est de la tôle. Donc tout ça pour dire que c'est déjà un environnement un peu austère, quoi. Tu vois tout de suite qu'il y a de la misère, en fait. Et à côté de ça, tu vois beaucoup d'enfants. En fait, moi, c'est ça qui m'a tout de suite marqué, c'est que dans un environnement qui est malgré tout coloré, parce que la terre battue, c'est quand même très orange, donc tu as des petites maisons, tu as des routes qui n'étaient pas si catastrophiques que ça, j'ai trouvé. Tu as des routes qui sont quand même plutôt pas mal, notamment à Livingstone, et tu as beaucoup d'enfants dans les rues. C'est plus ça, moi, qui m'a surpris, c'est le fait que les gens vivent dans la rue. Il y a beaucoup de musique partout. Il y a beaucoup de musique. Les gens font de la musique. Ou alors, parfois, ils ont la chance d'avoir des petites enceintes, tu sais, donc ils mettent de la musique africaine, etc. Et donc, ça vit beaucoup, quoi. Donc, tu sens qu'il n'y a pas grand-chose, mais par contre, tu sens qu'il y a
De
aussi énormément à
l'effervescence,
goûter,
quoi.
quoi. Il y a de l'effervescence et voilà, une vraie chaleur humaine. Donc là, le trajet dure 20 minutes.
Oh, ça
Et j'arrive,
va.
oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Et j'arrive dans une petite maison que donc ce fameux monsieur a construit pour les volontaires qui viennent. Donc là, je me retrouve avec plusieurs volontaires qui étaient déjà là, qui avaient tous des missions un petit peu différentes, mais qui travaillaient en tout cas tous à l'école. Donc c'est une petite maison. En fait, tu rentres, tu avais un portail en bois, et ensuite tu as une maison qui était relativement grande, je trouve. C'était une maison qui pourrait ressembler à celle qu'on pourrait avoir en France, avec, tu vois, un peu de crépi à l'extérieur, etc. Une petite terrasse, pas trop mal. Par contre, à l'intérieur, t'as rien. Tu rentres dans
Alors en
la
fait
maison.
tu t'es dit c'est comme un Kinder sans cadeau à l'intérieur quoi,
Ouais.
c'est joli à l'extérieur mais tu t'as il y a plus de cadeau dedans en fait,
Ouais,
c'est
c'est un peu ça. Tu rentres dans la maison, en fait. Donc, tu as du carrelage. Tu as un bureau au milieu de la pièce. Tu sais pas trop ce qu'il fait là. Après, tu as une autre pièce où tu as un petit frigo, une petite cuisine. Et puis après, on avait, si tu veux, deux, trois chambres avec des lits superposés où les volontaires dormaient ensemble dans les chambres, quoi. Et un petit jardin pour étendre ton linge. Enfin, voilà, quoi, un petit jardin. Et un petit jardin en terre, bien sûr. Donc voilà pour l'envers
Et
du
du coup,
décor.
cette première impression, là, tu te dis quoi? Parce que t'as vu la maison, t'as dit, ah, pas mal. Tu rentres, tu vois
Oui,
que c'est quand
j'étais
même
très
plus
surpris.
sobre, on va dire ça
Oui,
comme ça.
propre, hein, par contre. Propre, hein, t'avais
Ah.
quelques cafards et quelques araignées, mais je veux dire,
Ouais, mais
honnêtement,
ça va,
propre
ça.
malgré tout. Franchement, ouais, non, mais propre, franchement. Ça va.
Donc, t'es dans
Donc.
quel état, à ce moment-là, tu te dis quoi? T'es dans quel état d'esprit? Tu te dis, franchement, ça va, je m'attends à pire, franchement, c'est cool, franchement,
Oui,
c'est. Ou au contraire, tu te dis, oula,
exactement.
ça va être long.
Alors, je me dis pas du tout que ça va être long. Par contre, je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais, moi, tu vois, dormir à même le sol. Je savais même pas que j'allais avoir un lit, quoi. Donc, j'étais content d'avoir un petit lit déjà. Et j'étais tout de suite très très bien accueilli, donc par Allridge et aussi par les volontaires qui étaient déjà sur place.
Ah
Donc, ils ont pu
super.
répondre tout de suite à mes questions. Tu vois, donc j'ai pas. En fait, ce moment d'inconnu, bah, tu l'as forcément quand tu arrives, mais tout de suite, tu as des gens qui sont bienveillants avec toi et qui vont t'expliquer comment ça se passe ici. Voilà ce qu'ils font au quotidien, comment ça va se passer dès le lendemain, parce que du coup, je suis arrivé un dimanche et je commençais le lundi matin à l'école.
Allez
Mais
hop.
tout de suite, voilà, il t'enlève un poids qui peut-être un petit peu te stresser, quoi. Mais tout s'est bien passé de façon très très bienveillante. Ça, c'était important.
Et lundi matin, la rentrée scolaire. Comment
Ouais.
est-ce que tu as pleuré et que tu étais dégoûté parce qu'il n'y avait pas ta maman? Ou il n'y avait pas Marion en tout cas?
Ouais.
Où est-ce que
Alors,
ça a été?
j'ai versé ma larme, pas pour ces raisons-là. En fait, donc on part de la maison. On était cinq volontaires à ce moment-là. On part de la maison, donc tu marches 10 minutes, tu traverses des rails de train, tu traverses, en fait, pas grand-chose, quoi. C'est compliqué à expliquer, mais faut s'imaginer qu'il y a pas grand-chose vraiment. C'est beaucoup de terre battue, quelques petites maisons sur les côtés, voilà, des rails de train, et puis des petites maisons un petit peu plus loin encore, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Et puis puis bref, au bout de 10 minutes, t'arrives dans cette petite école, en fait, qui ressemble à une petite maison de Normandie. Mais quand je dis petite maison de Normandie, c'est une toute petite maison, plutôt un cabanon même, en fait. Hein,
où un cabanon de Normandie, d'accord.
Ouais, un petit cabanon de Normandie. et l'école, c'est ça. Et en fait, pourquoi j'ai versé ma larme? Parce que... Enfin, j'ai versé ma larme. Je me suis quand même bien sûr contenu, mais c'était très fort dans le sens où j'avais déjà fait donc du volontariat durant mon tour du monde et jamais j'avais vu ça. C'est les enfants en fait apprennent par terre. Donc, t'as pas de table, t'as pas de chaise. Les enfants sont à même le sol.
D'accord.
Et les conditions, si tu veux, sont un petit peu particulières puisque c'est, faut pas être claustro, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette petite cabane un peu rustre, tu n'as quasiment pas de fenêtre déjà, donc c'est très sombre à l'intérieur. Ouais. Les volontaires ont dessiné ce qu'ils pouvaient, tu vois, des chiffres en couleur, des animaux, donc sur du papier blanc, bien sûr, hein, ouais. Qui collaient au mur pour mettre un petit peu de gaieté. Ouais. Mais sincèrement, ça fait un petit peu glauque, quoi. Quand tu rentres là-dedans, tu t'y attends pas, que tu vois ces petits bouts de choux là qui sont vraiment par contre tellement mignons. Enfin, ça, il n'y a pas à dire. Hein. Les petits Africains, ils sont beaux comme le jour, c'est incroyable. Et ils sont, voilà, par terre, et puis ils attendent que tu commences le cours. Et voilà, c'était très très fort.
Ouais, donc ça t'a pris au trip en fait. Tu t'es dit, waouh, ouais. Ok, je comprends pourquoi on m'a demandé de venir.
Ouais, exactement.
Il y a des vrais besoins.
Il y a des vrais besoins, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a vraiment des vrais besoins et il faut vite rentrer. Voilà, pendant une heure, tu es un petit peu chamboulé. Par contre, très vite, tu vois que tu es là, enfin, que tu n'es pas venu pour rien, que tu peux apporter quelque chose, quoi. Donc,
ah, donc c'est ça, vite. En fait. C'est ça que j'allais dire. C'est que dans ce moment, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je fais là? Ça va, enfin, c'est trop pour moi parce que tu te laisses, bah, submerger par l'émotion. Ou en fait, tu te dis, ok, bah, ces gens-là, ils ont besoin de moi. C'est parti, je vais tout donner, quoi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça dans le sens où toi, t'es encore une fois sur ton modèle qui a été le tien, donc ton modèle français bien structuré, parce que on se plaint beaucoup en France de beaucoup de choses. Moi, le premier, hein, avant de partir notamment. Mais tu te rends compte en fait de la chance que on a ici, ne serait-ce que d'avoir, tu vois, des stylos, d'avoir des tables, d'avoir des chaises, d'avoir des infrastructures comme on peut avoir. Et donc là, t'arrives
des
là-bas.
Des trucs qui pour nous, on n'y pense même pas. Au fait, ouais, qu'il y ait des chaises. Les chaises, ça fait partie du décor. Au contraire, si c'était pas là, c'est dire bah, qu'est-ce qui se passe en fait. Et pas genre waouh, il y a des chaises. Non, mais c'est dingue, tu vois, vraiment. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est dingue. C'est exactement ça. Et donc, en fait, tout de suite, parce que par contre, c'est important de préciser quelque chose, et ça, c'est pas valable qu'en Afrique. C'est que quand tu pars faire du volontariat, il faut vraiment que tu aies une volonté intérieure de faire quelque chose. Et tu ne peux pas faire du volontariat en étant passif ou en te disant moi je verrai bien comment ça se passe, tu vois. Il faut vraiment que tu aies cette volonté d'aider, de leur apporter quelque chose et de prendre des initiatives. Si tu n'es pas source d'initiative, sincèrement, bah, un mois ça peut être très très long. Parce que eux, ils t'attendent sans t'attendre. Ça veut dire que tu vas pas être guidé. En fait, ouais, quand je dis qu'ils t'attendent, c'est-à-dire que eux, ils voient un Français arriver ou un Allemand, enfin peu importe. Pour eux, tu as la connaissance, tu as beaucoup de choses que eux n'ont pas, et donc ils attendent de toi que tu leur apportes quelque chose. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois très bien.
Et donc tout de suite, la question à se poser, c'est ok, tu prends en compte l'environnement dans lequel tu es, tu observes, tu analyses. Qu'est-ce que moi, ma petite échelle, avec mon expérience, mon vécu et mon savoir-faire, qu'est-ce que je peux leur apporter ? C'est tout de suite ça. Et donc moi, en fait, si tu veux, là où je pense avoir apporté surtout une plus-value à cette école, mais ça a été aussi valable dans les autres écoles que j'ai fait avant, c'est la création de cours de sport. Parce que il n'y a pas de cours de sport, en fait. On a fait du volontariat aussi au Pérou, il n'y en avait pas. On a fait du volontariat donc à Bali, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de cours de sport non plus. Donc ça.
Mais attention, c'est ce que je dis aussi souvent, c'est reviens dans les années 50 ou 60, quand tu voyais un mec courir, le gars il disait mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens de travailler 10 heures à l'usine, viens prendre un canon au bistrot, tu vois. Enfin, le footing. Les gars, ils disaient, mais t'es con, pourquoi tu cours? T'étais crevé déjà de l'usine. C'est vachement récent le sport, en fait, en termes de divertissement, tu vois, en termes de monsieur tout le monde qui fait du sport. Donc, forcément, des gens qui travaillent au champ toute la journée, ils vont pas se dire, allez, je vais me claquer un petit 10 bornes après tout ça, ça va être sympa comme tout. Donc, ouais, en fait, je peux comprendre.
Donc, bien sûr. Alors, moi, c'est vrai que j'étais un petit peu loin de ça pour tout dire parce que. Comme je t'ai dit, c'était ma première expérience. Enfin, ce tour du monde a été ma première vraie expérience, notamment dans la solidarité. Et puis moi, voilà, j'étais loin de tout ça, quoi. Donc, encore une fois, tu observes, tu analyses. Et aujourd'hui, on le sait que le sport, c'est, comme tu l'as dit, c'est plus forcément même un divertissement, notamment pour les jeunes, mais c'est même aussi hyper important pour leur équilibre et pour leur développement. Surtout que moi qui suis là-dedans, j'en ai encore peut-être plus conscience que certaines personnes. Et donc, tout de suite, j'ai expliqué aux professeurs locaux l'importance de l'éducation physique pour le développement de l'enfant. Et donc j'ai créé mes cours de sport. Donc des cours de sport, ça a été de façon très ludique parce que ça reste des enfants et les enfants, bah faut pas leur prendre la tête avec surtout pas de compétition.
Allez, avoue, t'as voulu choisir le prof, la profession prof la plus cool du monde. Je vais être prof de PS, quoi. Comme ça, j'ai pas de devoirs à la maison à corriger.
C'est un peu ça. C'est un peu ça.
Et du
Mais
coup, t'as
du
mis quoi,
coup.
ouais, comme en place, comme exercice?
Alors, il y a eu beaucoup, parce que si tu veux, j'ai fait des jeux ludiques, mais qui étaient pour moi plus sous forme de test pour voir un petit peu leur niveau, de motricité et de coordination. Ça veut dire que j'ai eu affaire, et ça, j'ai eu affaire enfin, c'était pas qu'en Afrique, je veux dire au Pérou et à Bali aussi, à des enfants qui n'étaient pas coordonnés et qui n'avaient pas de motricité. Ça veut dire que quand tu leur demandes, par exemple, de sauter à cloche-pied, ils avaient beaucoup de mal. Alors, il y a
C'est
un
vrai?
premier,
Ah oui, d'accord,
ouais.
ouais.
Ouais,
Ok,
vraiment.
ok.
Les pas chassés, le sauter à cloche-pied, rester en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes,
Ah.
sauter, accessoirement sauter, parce qu'en fait, ils courent quand ils jouent au foot, là-bas, ils courent, mais ils ne font que ça, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça qu'après, tu peux voir chez les adultes là-bas des carences ou des postures qui sont pas forcément très, très équilibrées, quoi. Et donc, voilà, tout de suite, ça a été surtout ça, à travers du jeu, hein, tout le temps. Et après, ça a été aussi l'initiation de sport avec ballon, mais autre que le foot. Le handball, le volley, parce que beaucoup aiment le foot et aussi forcément beaucoup n'aiment pas le foot. Et pour eux, le sport, c'est le foot là-bas. Tu vois, il n'y a pas d'autre solution. Enfin,
Ah, il y en a quand même qui aiment pas le foot. Enfin, c'est
bien
pas,
sûr,
c'est
bien
comme,
sûr.
enfin, c'est pas une, c'est comme cette vieille légende urbaine. Tous les Chinois, ils savent faire du kung-fu, quoi. Enfin, ils s'en, il y en a
Oui,
plein.
oui.
Surtout maintenant, je pense qu'ils s'en branlent bien du kung-fu. Mais et attends, comment ça se passe quand t'apprends à des jeunes enfants qui connaissent pas le sport du handball et du volleyball, parce qu'ils ont jamais entendu parler de ce sport-là. T'arrives à leur faire, c'est facile à leur faire jouer à ça, ou est-ce que c'est une
Non.
tannée où tu dis, attends, là on va
Non.
reprendre.
C'est pas simple parce qu'en fait, tu les sors du contexte de l'école. Donc, tu sors de l'école avec les enfants et tu vas sur le terrain. Justement, c'était le même terrain sur lequel j'entraînais l'après-midi avec l'équipe de foot du village. Donc, c'était
Ouais.
ce fameux terrain en terre battue. Voilà. Mais les enfants, dans leur esprit, autant quand ils sont à l'école, ils sont globalement plutôt sérieux et sages parce qu'ils savent que c'est dans le contexte de l'école, même si c'est nouveau pour eux, hein, l'école. Donc, forcément, voilà, ça reste des enfants en plus. Donc, t'as
Au moins, il y
encore.
a un côté impressionnant, donc il y a
Mais
un
t'as un...
côté,
Exactement.
voilà, on déconne pas
Il faut être
trop.
sérieux. Là, par contre, tu sors du contexte de l'école, donc tout de suite, les enfants, ils sont un petit peu plus, mais comme en France, hein, je veux dire, c'est partout pareil, mais ils sont beaucoup plus excités, ils ont envie de jouer, etc. Donc là, tu leur expliques déjà pourquoi tu vas faire des cours de sport, qu'est-ce que ça va leur apporter, donc tu vois, pour remettre un petit peu un cadre, et
Et tu
après,
leur
tu
dis
leur
quoi?
montres.
On va faire du sport pour s'amuser, ça va vous apporter de l'amusement? Tu leur dis
On
quoi?
fait beaucoup de jeux en musique aussi, en fait.
Ah,
Parce
cool.
que l'objectif, c'est de leur apprendre aussi l'anglais, parce que l'anglais, c'est la langue, la
Ouf.
première langue en Zambie.
Ok, ouais, c'est la
Mais
langue
peu de gens
officielle
parlent
aussi,
anglais.
j'imagine qu'ils
C'est
ont
la langue
pu.
officielle exactement, sauf qu'en fait, au final, peu de gens parlent anglais. Enfin, il
Ouais,
y en a quand même pas
forcément.
mal,
Ouais.
mais ceux qui parlent anglais, c'est ceux qui ont eu accès à l'éducation, parce que
Oui, c'est
sinon,
la
il y a
langue administrative,
97
on va
dialectes.
dire.
Exactement, t'as 97 dialectes en Zambie. Donc chacun
Ah
parle dans
ouais.
son dialecte avec ses parents, ses amis du village, quoi. Mais pourquoi se prendre la tête à apprendre l'anglais quand tu sais que tu ne sortiras jamais de ton patelin, tu vois? Enfin, donc en fait, nous, l'objectif, c'est aussi de leur apprendre l'anglais. Et en fait, si tu veux, l'anglais, c'est la base. Et après, tu vas leur apprendre à faire de la peinture, à compter, à faire du sport. Mais tout ça à travers l'anglais. Donc on faisait beaucoup de choses en musique pour leur développer cette oreille, enfin l'oreille par rapport à l'anglais, cette écoute, et aussi après bah, pour faire des choses comme le sport notamment, etc., quoi. Donc beaucoup de démonstrations, beaucoup de valorisation. Ça, c'est une chose hyper importante. Hyper importante parce que c'est des enfants qui ne sont pas valorisés, en fait. Là-bas, c'est la valorisation, ça n'existe pas. C'est très, très dur, hein, je
C'est très
trouve.
européen aussi, hein. Tu sais, moi j'ai des potes aussi qui sont asiatiques, et même aujourd'hui en France, dans la culture asiatique, t'as pas ce côté on te montre ton amour. Enfin, ça, on montre pas, les Asiates, ils montrent pas le truc, tu vois. C'est très
Exactement.
pratique. C'est une relation de, quand je dis pratique, c'est pragmatique. C'est voilà. Et surtout en Afrique, les enfants, c'est une main d'œuvre. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, il y a même pas à juger. C'est les enfants, avoir plein d'enfants, c'est ta retraite potentielle. Il y en a qui vont prendre soin de toi. Donc, il y a pas d'une relation d'autant de. Écoute, je sens que tu vas pas bien. Hein, est-ce qu'on peut échanger? Même en France, hein, enfin, je veux dire, c'est nouveau ces trucs-là. C'est très entre guillemets bobo, même si ça devrait se généraliser la communication. Donc, j'imagine que eux, quand tu leur montes un peu d'attention et d'amour, ils doivent péter les plombs, en fait.
C'est ça. Mais ils sont, en fait, au début, c'est drôle. Ils sont très surpris. La première réaction, c'est qu'ils sont surpris. Quelqu'un qui dit que c'est bien, mais qu'est-ce qu'il lui prend et ça va pas ou qu'est-ce qui
Je
se
vais m'en
passe?
prendre une juste derrière que ça va pas tarder non
Ouais.
plus.
Non mais oui, alors ça c'est bon. Alors ça c'est aussi autre chose parce que pour le coup, tu dis ça sous le ton de la rigolade, mais oui, c'est nous, on a dû imposer aux professeurs d'arrêter de battre les enfants, sinon nous, on partait quoi, en fait. Tu vois,
Ah
donc
d'accord, ouais d'accord. Ouais.
oui, parce que mais quand je dis battre, c'est pas à 100, mais
Ouais, c'est
tu
coup
vois
de règle.
une bonne tarte, voilà, un coup de règle, tu donnes tes doigts et puis je te mets un coup avec la règle sur les doigts, etc. Quoi, c'est pour punir l'enfant, c'est comme ça là-bas. Donc nous,
Alors,
forcément,
je voudrais aussi remettre les choses dans leur contexte. Dans les années 70,
c'était comme ça.
c'était encore comme ça. Hein. Enfin, moi, mon père, il se prenait effectivement des coups de règle. Moi, j'avais un prof en primaire qui était à l'ancienne, vers la fin de la retraite. Je peux te dire qu'il venait te choper, tu sais, les petits cheveux là à côté des oreilles,
Ouais.
là. Il te tirait vers le haut comme ça. Donc, et le mec fumait des cigares en cours. Enfin, alors même à l'époque, tu vois, je te parle des années 80. Donc,
Bien sûr, bien sûr.
ce truc-là qui existe encore aujourd'hui en Afrique, c'était il n'y a pas si longtemps chez nous. Hein.
C'est ça. Mais donc nous, en fait, notre volonté, c'était donc non pas, encore une fois, hein, il faut surtout pas vouloir inculquer notre modèle européen là-bas. Par contre, là, c'est plus aussi en termes de valeur, où moi, c'est quelque chose de très important.
Oui.
Bon, voilà, taper un enfant, pour moi, voilà, c'est pas normal. Donc, après, tu discutes avec eux, tu leur fais pas la leçon de morale, c'est pas l'objectif. Par contre, tu discutes avec eux et tu leur apprends des nouvelles façons de faire pour punir l'enfant ou pour leur faire comprendre que c'est pas bien. Et donc, et tout ça, ça prend du temps, mais je
Et
pense que
c'était
c'est
quoi du
hyper
coup que
important.
tu leur as que vous la vous leur aviez dit, ok, on arrête ça pour faire on arrête le coup de règle pas, et on met quoi à la place?
Bah c'est une pédagogie active en fait, hein. Donc tu poses des questions à l'enfant. Par exemple, quand un enfant va commencer à taper son camarade, eh bien, tu lui dis si par exemple, parce que souvent ce qui se passe c'est que là-bas, quand tu es plus grand qu'un autre, tu as tous les droits sur l'autre. Ça veut dire que y a une hiérarchie qui est très importante là-bas par rapport à l'âge.
Ok.
Et j'expliquais du coup par exemple à un petit qui tapait beaucoup son camarade plus petit que lui à côté, je lui dis mais toi tu as un petit frère. Donc il me répond oui. Et là je te le dis, c'est très simple quand je te le dis en français, mais là-bas il parle pas anglais, faut pas l'oublier. Donc c'était un peu compliqué de se faire comprendre. Mais en gros c'est est-ce que si un grand tape ton petit frère, comment tu réagirais? Ah oh, je le défonce quoi, il me dit. Je lui dis bah, pourquoi toi tu tapes quelqu'un qui pourrait être ton petit frère? Tu vois, en fait, c'est aussi
C'est
c'est
les
pour qu'ils
faire
prennent
réfléchir
conscience
en
de leur
fait,
acte.
plutôt
Ouais,
que les
les faire
condamner.
réfléchir. C'est ça, exactement. Non pas les condamner, mais leur faire réfléchir par rapport à leur acte. Donc voilà par rapport à ça. Ouais.
Et c'est il y a moi j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Si par exemple, alors on revient un petit peu dans le passé, t'es avant ton tour du monde, t'es à un bar, et là il y a la fameuse Marion que tu connais pas encore très bien, et que mais t'as finalement déjà fait ce bénévolat, tu vois? C'est ce que je veux dire. Et si tu devais
Ouais.
raconter des petites anecdotes pour emballer Marion, c'est quoi les putains d'anecdotes que tu sortirais de ce bénévolat où tu dis soit pour la faire rire, soit pour la faire chialer, soit pour la faire l'impressionner, tu vois, parce qu'il y a plein d'anecdotes pour tu vois, un peu stylé pour si tu veux pécho ta petite nana qui est en train de te regarder au comptoir. Qu'est-ce qu'il y a comme anecdote vraiment que tu ressors de là où tu dis ah ouais, ou alors on peut rire ou on peut pleurer.
Alors, des anecdotes, c'est pas forcément facile à sortir comme ça. Par contre, c'est plus des moments et des émotions.
Très bien.
Alors, notamment au Pérou, ça a été très très fort au Pérou. Donc, j'ai fait trois volontariats en fait, un mois à Bali, un mois au Pérou et un mois en Afrique. Au Pérou, c'est je pense là où on a créé la relation la plus forte avec les enfants, parce qu'on est tombé sur des enfants très très tactiles et qui, je pense, ça c'est moi qui le pense comme ça, mais ça par contre je ne m'avance pas trop parce que je n'ai aucune preuve ni rien, mais je pense que c'est des enfants qui sont en recherche permanente d'amour. Et donc là-bas, tu vois, les profs sont très stricts avec les enfants. Et quand tu as des volontaires comme nous qui viennent et qui voient que nous, on est vraiment là pour eux et qu'on ne les rejette pas quand ils viennent nous faire un câlin, et bien du coup, ça crée un schéma où en fait, bah, de plus en plus, ils nous font des câlins. Donc tu arrives le matin en cours et les enfants sont très, très, très heureux de te voir. Donc la chose la plus qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand on arrivait le matin à 8 h à l'école du Pérou et que tu avais tous les enfants qui se jetaient sur nous. Des fois, on tombait tellement qu'ils étaient nombreux sur nous. et qui nous faisait des câlins qui ne s'arrêtaient pas. Et donc, en fait, je pense que nous, on y va pour leur apporter quelque chose, mais eux nous apportent au moins autant que ce que nous, on leur apporte, sur des choses différentes, bien sûr. Mais nous, on a eu, je pense, une dose d'amour pour les 10 prochaines années, il n'y a pas de problème, quoi.
Alors là, effectivement, il y a Marion en face, là, qui te connaît pas encore. Elle se dit, ouais, mais c'est un mec, il est trop génial. Il est vachement en phase avec les gamins. Donc celle-là, elle marche bien. Elle marche super bien. Qu'est-ce que t'en as une autre?
Est-ce que j'en ai une autre? Alors là, c'est oui, j'en ai une autre. Et je pense, pour être tout à fait franc, que ça a été le moment le plus fort de mon tour du monde. Ça a été en Afrique, justement. Ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'étais un petit peu déçu de ne pas. J'étais très content de coacher l'équipe du village, mais j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu que c'était des adultes, parce que j'aurais aimé, voilà, prendre un petit peu de football, un petit peu plus techniquement, et toi, des enfants.
Okay.
Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans les rues tout seul, dans les petites ruelles de Zambie, là, de Livingstone notamment, et en fait, je suis allé parler à. Parce que là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as 80%, pardon, d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc tu as 80% des enfants qui
Wow.
sont dans les rues. Et donc moi, j'allais voir les enfants et je leur disais, bah, écoutez les gars, moi à 15h, tous les mardis et jeudis, bah, je vais faire un entraînement pour vous. Donc il y aura des ballons, il y aura des plots, il y aura des chasubles. Est-ce que ça vous tente de venir? Donc, faut pas s'attendre à avoir une réaction démentielle de leur part, parce qu'encore une fois, ils ne montrent pas leurs émotions, en tout cas pas de suite. Mais au final, j'ai commencé mon premier entraînement avec
Oh, puis il
10
faut
enfants,
aussi
puis 15,
l'approbation
puis
des
20.
parents. Bah non, faut travailler, mec. Entre 15h et 18h, qu'est-ce que tu vas aller t'amuser? Il y a peut-être ça, non?
Non, pas du tout, parce qu'ils travaillent pas là-bas.
Ah,
Les enfants ne
d'accord.
travaillent pas du tout. Ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, en fait.
Ah oui, d'accord. Ils travaillent
Ouais.
pas, mais du coup, ils ont rien non plus, quoi. Enfin.
Ils ne font absolument rien. Tu les vois, ils marchent. Quand j'allais à l'école le matin à 8h, j'en voyais plein qui marchaient à un endroit où qui étaient assis, et je partais de l'école à 13h, ils étaient encore là, quoi. Et puis entre-temps, ils avaient pas fait grand-chose, hein, si tu veux. Donc, et donc tout ça pour revenir par rapport à ta question, enfin par rapport à là où je veux en venir, c'est
Ce que tu veux en venir, c'est pécho Marion. Donc lâche une
exactement,
putain
c'est bien ça.
d'anecdote.
Donc j'essaie de voir quels arguments je peux mettre en avant pour la toucher, tu vois. Non mais hop, pour être tout à fait franc, le moment le plus fort, c'est qu'il y a un petit garçon qui s'appelait Po, qui avait 8 ans, et en plus qui ressemblait à mon petit frère. J'ai un petit frère de 19 ans aujourd'hui, mais qui avait un. Paul aurait été africain, mon frère, il aurait la même bouille que ce petit Po, tu
D'accord.
vois. Et en fait, ce gamin, donc il faisait partie des gamins qui j'avais proposé de venir faire un entraînement avec moi. Et au début, il ne montrait pas du tout ses émotions, il souriait jamais, mais comme beaucoup d'autres, mais bon. Et j'arrêtais pas de l'encourager, je lui disais well done, good job, continue, voilà, tu vois, genre bien. Je lui faisais même des fois des câlins, j'essayais d'aller vers lui et sans le brusquer, tu vois, mais une petite tape dans la main,
Ouais.
ou tu vois, voilà. Et quasiment le dernier entraînement que j'ai fait avec eux, et donc avec ce petit gamin, il m'a fait un sourire, mais tu vois, le sourire qui vient du cœur, tu vois, genre à un moment donné, je lui ai dit good job, et là, il m'a regardé et. Il m'a fait un sourire, il a couru vers moi, il m'a fait un câlin. Mais je pense que sincèrement, c'était le premier câlin qu'il devait faire à quelqu'un depuis au moins 7 ou 7 ans, quoi. Enfin, tu vois,
Ouais.
le truc incroyable. Et là, c'était un des moments les plus forts parce que peu importe ce que je leur ai apporté en termes de compétences footballistiques, ça on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Par contre, j'ai réussi à lui apporter un peu d'amour et un peu de valorisation. Tu vois ce que je veux dire?
D'estime de lui-même en
D'estime
fait.
de lui-même, exactement. Et ce moment-là, je pense que je l'oublierai jamais parce que le sourire qu'il m'a fait et cette intensité dans le fait de le prendre dans mes bras, ça a été quelque chose de très très fort, de très 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 fort. Et voilà, c'est vraiment une des choses qui me vient tout de suite à l'esprit parce que j'oublierai jamais ce moment, quoi.
Bah à mon avis là tu l'aurais pécho Marion, je te le dis tu l'aurais pécho. Non, franchement, parce que moi j'ai envie de te faire un câlin, je te le dis donc bon voilà. Est-ce que ça, c'est juste une petite question rapide, mais pour ceux aussi qui aimeraient faire ce genre de mission en Afrique, et en tout cas en Zambie, parce qu'on parle chaque pays est différent et région différente, mais est-ce que c'était dangereux? Est-ce que tu t'es senti en insécurité? Est-ce que tu sentais que c'était un peu tendax? Tu vois, quelqu'un qui veut y aller, peut-être même des femmes, parce que je sais que les femmes ont beaucoup plus d'appétence à vouloir aider les gens que les hommes. Est-ce que tu sens que c'était un peu tendu quand même? Ou pas?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai été confronté à quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé être confronté un jour, c'est le racisme.
D'accord.
En France, c'est vrai que, alors peut-être que je ne réfléchis pas beaucoup, tu me diras, mais le racisme, c'est les blancs envers les noirs. Tu vois, genre,
Ouais.
quand tu dis à un mec qui est raciste, c'est parce que c'est un blanc qui n'aime pas le noir, quoi.
Ouais.
Sauf que là-bas, en fait, eh bien, j'ai vécu le racisme à l'inverse. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, mais justement, quand en plus j'allais recruter, entre guillemets, c'est un grand mot, mais les jeunes des rues pour faire les entraînements de foot, j'allais dans les villages qui, honnêtement, je pense, pouvaient craindre un petit peu, pour être tout à fait franc. D'ailleurs, j'étais avec un ami zambien, j'étais pas tout seul non plus.
Ouais.
Et voilà, on m'a parfois insulté de Mozongu. Alors
Ah,
Mozongu, c'est
Mozungu.
ça.
Maman, on nous appelait comme ça tout le temps au Congo. Oh, mais là, il le
Ah oui?
disait pas gentiment.
Non, c'était pas très gentiment parce que Mozongu, c'est quand même quelque chose de péjoratif. C'est quelque
Alors là,
chose.
tu viens de dire que on m'a appelé comme ça pendant 3 semaines entre le Congo, le Burundi et le Rwanda. Sauf
Ouais.
qu'ils en rigolaient en fait. C'était pour se foutre un peu de
Alors,
nous. Mais là,
je
pas.
pense que mais c'est comme en France, hein. En France, par exemple, je dis n'importe quoi. Alors après, en France, en plus, tout prend des proportions énormes très très vite. Mais un mec qui dirait, voilà mon petit black, tu vois, pour rigoler, ça peut passer. Par contre, un mec qui va dire sale black, bah, c'est quasiment le même mot. Par contre, la façon dont tu vas le dire, c'est pas pareil. Et la façon dont on m'a dit ça, c'était vraiment, en gros, t'es pas chez toi ici, donc reste pas trop là, quoi. Tu vois, c'était. Et je sais qu'il y avait un volontaire qui était là quelques mois avant moi, qui s'était fait racketter dans une des petites rues. À côté de ça, ça peut. Enfin, je veux dire, tu peux aller dans des quartiers de France où tu te fais racketter aussi, quoi.
Bien
Je me suis
sûr.
pas senti plus en insécurité qu'ailleurs. Faut juste faire attention, bien sûr, à ne pas faire n'importe quoi, parce que quand t'es blanc, pour eux, t'es aussi synonyme de richesse, de pouvoir,
Bien
et
sûr.
donc t'es forcément une cible. Là, tu es face à des personnes qui doivent gagner même pas 10 euros par mois, voilà. Eux savent que toi tu as 30 000 fois plus et que forcément bah tu peux que tu voilà t'es juste une cible pour eux. Donc faut faire attention à ne pas aller n'importe où
Bien
tout
sûr.
seul à n'importe quelle heure.
Ouais,
Surtout sur les endroits
enfin,
touristiques comme
pas tenter le diable, comme je dis
c'est
toujours.
pas
C'est
tant que
que
diable. Ça c'est partout pareil hein.
eux, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils crèvent la dalle. S'ils voient un mec en faisant un truc pas très cool, il peut avoir 100 euros qui changeraient leur quotidien.
C'est
Est-ce
ça.
que nous, on le ferait pas? Bah, je pense que si. Donc, c'est se mettre toujours dans les situations où finalement, tu peux pas les tenter. Parce que t'es toujours en
Oui.
public, parce que t'es avec des gens locaux, parce que tout ça. Donc, oui. Mais au-delà de ça. Tu sens que quand tu étais en public la journée avec des locaux, à part quelques personnes qui étaient un peu réticentes, et c'est normal, ils voient un mec, n'oublions pas, on était des colons il n'y a pas si longtemps que ça,
Oui.
donc il y a un moment, mec, enfin, ouais, rentre chez toi, tu vois, on peut comprendre, mais
On peut comprendre, bien
c'était
sûr.
pas une généralité non plus, c'était pas une tension permanente.
C'était pas du tout une tension permanente. Au contraire, moi j'ai trouvé cette population incroyable. Comme je l'ai dit tout
Ok.
à l'heure, c'est la première chose qui m'a touché en arrivant en Zambie, si tu veux, c'est cette chaleur humaine. C'est ce que je dis parce que j'ai un blog qui récapitule un petit peu tout mon voyage. Et ce que je dis,
Qui
c'est qu'ils ne
s'appelle?
vivent pas Max et Marion en vadrouille.
Eh bien, écoute, sache qu'il y aura le lien de ce petit blog dans la description du podcast.
Bon, bah
Voilà, internaute, si t'as envie de regarder.
c'est sympa. Et tout ça pour dire qu'en fait, voilà, c'est une population qui ne vit pas avec la musique, mais en musique. C'est-à-dire que la musique, ça fait partie intégrante de leur vie. Et qu'ils
Génial.
sont tout le temps en train de déconner, ils sont tout le temps en train de te sourire, ils sont tout le temps. Tu sais, c'est vraiment le lâcher prise, mais quotidien, quoi. C'est tout le temps, ils sont tout le temps dans le lâcher prise, dans la bonne humeur et tout. Donc non, sincèrement, enfin, il y a très peu de danger. Il faut juste, voilà, pas tenter le diable comme tu l'as dit, mais
Ouais, et respecter les règles de
et respecter.
bienséance quand on voyage sur la sécurité. Je voudrais poser une question, alors un peu plus sérieuse, même si le danger et la sécurité c'est très important, mais c'est quelle leçon, toi, en tant que petit Max qui a fait ce bénévolat, t'as tiré
Ouais.
comme leçon vraiment de cette aventure? C'est quoi les leçons que t'as tirées de tout ça? T'es rentré, tu dis, voilà, mes grandes leçons de vie, ou les leçons, ou je sais pas, ce que t'en as tiré, c'est quoi?
Alors, bien sûr, j'ai tiré des leçons de vie. Après, il y a eu la solidarité qui a été une partie importante de mon tour du monde. Après, il n'y a pas eu que ça non plus, parce que j'ai voyagé 9 mois et la solidarité, ça a été que 3 mois sur ces 9 mois, donc il y a eu aussi beaucoup d'autres
Quand
choses.
même, quand même.
Mais oui, quand même. Mais ce
Bravo
que je veux dire,
d'ailleurs.
c'est que. Mais c'est surtout qu'on a. Alors, moi, je pense que ce qui m'a le plus, tu vois, marqué, la plus grande leçon que j'en retiens, c'est la relation à l'autre, le rapport à l'autre qui est très, très différent ailleurs. Aujourd'hui, je ne dis pas que personne ne fait ça en France, attention, parce qu'en France, il y a aussi des gens très très bien. Mais on ouvre par exemple sa porte beaucoup plus difficilement que dans les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, voire d'Afrique. Le sens du partage est complètement différent. Donc aujourd'hui, non pas du tout, j'étais égoïste avant, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Par contre, aujourd'hui, je partage encore plus. Parce que c'est. En fait, je me rends compte que quand tu apportes quelque chose à quelqu'un, ça t'apporte au moins autant à toi-même. Faire du bien à quelqu'un, ça te fait du bien à toi aussi. Et ça, c'est hyper important. C'est ce
Et
que
ça
c'est.
dure plus longtemps,
Et ça dure
souvent,
plus longtemps.
quand je parle intérieurement, ça dure plus longtemps cette sensation de bien-être que quand tu réalises toi un kiff ou un objectif ou acheter un truc. C'est ça?
Exactement. Parce que c'est pas la même. En fait, il faut faire la différenciation entre le plaisir Le plaisir, c'est éphémère et le bonheur, tu vois. Le bonheur, c'est un truc qui va durer plus longtemps. Et je pense que le bonheur se construit en étant dans l'altruisme et dans la bienveillance. Et ça, c'est vraiment une leçon de vie que j'en retire. Et pour plein de choses. Même, après, je pense que, en fait, l'être humain peut toujours aider l'autre. Mais quel que soit le pays où tu es, quelle que soit l'activité que tu fais, et apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, ça t'apporte beaucoup plus que, comme ce que tu as dit, des activités, des plaisirs, pardon, qui sont plus éphémères, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis après, c'est aussi le regard que aujourd'hui, je pense que je fais beaucoup plus attention à des petits détails, des détails qui sont autour de moi qu'avant, parce que le voyage t'apprend aussi à observer. Ou alors, bah, sinon tu passes à côté de ton voyage. Hein, j'ai envie de dire, si tu pars en voyage mais que tu regardes pas autour de toi,
Et t'es
bah,
rivé sur ton téléphone?
par exemple, c'est un peu dommage, je pense. Donc, par exemple, c'est tout bête. J'habite dans une petite ville à côté de Bordeaux, et je suis allé à Bordeaux, tu vois, il y a une semaine là, et en fait, j'ai redécouvert Bordeaux parce qu'en fait, je regarde Bordeaux avec un nouvel œil aujourd'hui. Donc, le voyage t'apporte énormément, que ce soit en termes avec des valeurs humaines, mais même pour toi, tu vois, je trouve que tu vois juste les choses différemment, et je me sens beaucoup plus apaisé et dans le lâcher prise. J'étais quelqu'un d'assez anxieux avant, et puis de ou c'est très cartésien, où fallait que ça aille un petit peu comme je voulais. Alors ça, je l'ai toujours en moi, je veux dire, hein, j'ai pas non plus fondamentalement changé, je reste la personne que j'étais avant, mais par contre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui font que bah, j'arrive à prendre un petit peu plus de recul et être ouais, cool, Max, hein, ça va, repense un petit peu à ce que tu as vu là-bas, et ça va, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire. Si tu pouvais faire passer, et d'ailleurs c'est ce que tu vas faire, j'espère, un message aux personnes qui aimeraient faire du bénévolat. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui rêveraient d'en faire, mais que c'est quelque chose de très abstrait, quelque chose qui fait peur, quelque chose d'où ils ne savent pas par où commencer. Si toi tu pouvais leur faire passer un message pour un peu casser ces pensées limitantes ou ces choses qui font que ces barrières qui sont devant eux pour qui les empêchent de les faire pour toutes les raisons. Chacun a ses raisons de ne pas faire quelque chose. Tu ferais passer quoi comme message pour essayer de casser ces barrières? Ou leur faire, au-delà de casser une barrière, leur faire surmonter cette barrière?
Alors, tout d'abord, je dirais quelque chose dans lequel je crois beaucoup, c'est que pour moi, aujourd'hui, l'engagement, c'est devenu une nouvelle forme de voyage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais encore une fois, tu peux aussi faire des voyages pour toi, y a aucun souci par rapport à ça. Mais je pense vraiment que quand tu voyages et que tu veux donner du sens à ton voyage, la solidarité, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que sans parler du bien que tu vas faire aux autres, ça te permet aussi à toi, en fait, d'être immergé dans la culture locale et d'être avec les locaux quotidiennement, donc de mieux comprendre leur façon de vivre, de mieux comprendre un petit peu leur façon de faire, etc. Et donc, c'est déjà hyper enrichissant pour toi. C'est enrichissant pour les personnes forcément avec qui tu es, mais aussi pour toi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'en fait, aujourd'hui, sincèrement, faire de la solidarité, c'est à la portée de tout le monde. Et le conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut surtout pas payer pour aller faire du volontariat. Aujourd'hui, si tu as des plateformes, enfin des sites internet qui te proposent de partir dans une école au fin fond de l'Inde et que tu dois payer 3000 euros le mois, quoi. Ça, attention, ne faites surtout pas ça, parce que les 3000 euros, ils iront pas à l'école, ils iront dans les poches de personnes qui ont déjà ce qu'il faut, je pense. Donc en fait, moi, j'ai envie juste de. C'est pas, je veux pas de publicité ni rien. Par contre, je dis ça parce que c'est vraiment des sites assez exceptionnels. Donc, il y a Workaway qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, le principe de Workaway, comme tu l'as dit, Alex, c'est vraiment de proposer ses services à quelqu'un qui va en échange t'héberger et te nourrir. Donc, c'est du donnant-donnant. Hein. Tu bosses 4-5 heures par jour pour la personne, et en face de quoi lui va te proposer un hébergement et tout. Ça, c'est la première des choses, et tu peux le faire vraiment dans tout et n'importe quoi. Hein. J'insiste là-dessus. La deuxième des choses, c'est une asso en laquelle je crois beaucoup, qui a été créée par une amie qui a fait Tech de Co avec moi, parce que j'ai fait un DUT Tech de Co à Bordeaux,
Ouais.
qui s'appelle L'Abeille. L'Abeille,
Ah,
en
je
fait,
connais
donc.
pas en plus. Vas-y, ouais, balance, c'est génial.
Alors, L'Abeille, en fait, c'est donc une jeune femme qui après Tech de Co, a créé une association. Et en fait, son idée de base à elle, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, concrètement, c'était plus au début des Workaway, etc., quoi. Comment quelqu'un qui veut se rendre utile, comment il fait? Tu vois, sans avoir à payer 3 000 euros, comment il fait? Et donc, en fait, elle est partie faire un tour du monde, et son objectif derrière, c'était de trouver des partenaires et donc de proposer des stages quand je parle de stage, c'est formel ou informel, hein, mais en tout cas des possibilités pour être volontaire quelque part. Donc par exemple, elle est partie au Népal et en un mois, elle a trouvé quatre ou cinq partenaires. Donc par exemple, une asso qui s'occupait de ramasser des chiens errants dans la rue, aider à la construction d'une école, et puis ramasser les déchets sur une des plus grandes montagnes du Népal. Enfin bon, bref, elle a posté ça sur sa plateforme internet qu'elle avait créée. Après, elle est partie en Inde, elle a trouvé d'autres stages, etc., un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, elle a plus de 200 offres de stages, et en plus qui peuvent se greffer à des rapports. Par exemple, si tu fais un DUT ou un BTS tourisme, un DUT tech de co, je ne sais quoi, que tu as un stage à faire à l'international, tu peux partir faire un stage via cette plateforme. Donc, c'est assez extraordinaire, je trouve, quand même.
Ah, c'est
C'est-à-dire,
génial.
c'est vraiment génial. Et tu payes 10 euros l'adhésion, tu as l'air pour 10 euros, et après, tu ne payes plus rien et tu as accès à tout. Donc, là, la
Comme
question.
toutes les plateformes que sont Workaway et Helpx, et qu'à un moment,
Exactement.
faut payer les serveurs, il faut payer les mecs qui entretiennent. Enfin, c'est même pas, tu les payes même pas, c'est juste les frais
C'est une
que ça coûte.
contribution.
C'est juste, non, mais
Et
c'est voilà,
puis,
c'est juste un
c'est une
minimum de
contribution.
respect aussi, tu vois.
C'est exactement parce que elle du coup c'est toute sa vie, hein. Enfin elle, je veux dire, elle gagne, c'est encore une fois elle, pour le coup c'est un choix de vie qu'elle a fait. Moi je me pose beaucoup de questions par rapport à mon avenir, mais elle, je trouve que c'est un choix fort qu'elle a fait, parce qu'en fait elle s'est vraiment dit bon bah moi ma vie en fait quasiment de côté, hein, ma vie, ma construction de vie, etc., de côté pour ça. Donc je trouve ça juste incroyable. Par contre, c'est la fille la plus heureuse du monde, hein, tu vois, enfin à côté de ça, voilà quoi. Mais donc voilà, l'abeille c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller voir, parce qu'il y a des offres encore une fois dans tout et n'importe quoi, éducation, écologie, et puis plein de trucs.
Et
C'est 10
ça
euros la
concerne que
demi-heure.
les gens qui veulent faire des stages, ou même toi si tu es dans un
Et non,
voyage?
justement, alors c'est ça, voilà, c'est ça que je. C'est une bonne question, Alex. Nous, avec Marlon, on est parti à Bali via l'abeille. On n'était pas en stage de rien du tout, hein.
Ah!
Donc en fait, j'appelle ça stage, mais c'est plus des offres que tu peux mettre sous forme de stage si tu dois faire un stage avec un rapport de stage derrière machin. Ou alors tu peux partir, voilà, t'as pris une année sabbatique, que tu as un mois de vacances, tu veux te rendre utile, et bien tu pars là-bas, tu postules, t'envoies ton CV en anglais ou en espagnol en fonction du pays dans lequel tu vas. Tu choisis une offre qui te correspond, et puis tac, c'est parti mon kiki, quoi. Tu prends ton billet d'avion et tu y vas.
Écoute, ça, c'est
Donc
des bons conseils. Je pense que tu as donné envie à certaines. Moi, je vais aller voir l'abeille en tout cas. Parce que je
bah
vais à
c'est
Bali en
super.
fin d'année. Et j'ai bien envie aussi, pendant mes week-ends ou pendant plusieurs jours, aller faire des choses un peu utiles, tu vois. Et pas que aller
D'accord.
surfer. Et je pense que du coup, je vais aller jeter un œil à l'abeille ou à Workaway ou des choses comme ça.
Et ce qui est très sympa par rapport à l'abeille, je me permets juste de
Bien
rajouter ça, c'est que
sûr,
c'est en
oui, je t'en
plus
prie.
des offres qui ont été testées sur place. Donc en plus, toi, tu as un retour déjà, tu pars pas n'importe où. Là, à Bali, on était au fin fond des rizières, je te jure, on prenait un scooter, pendant 30 minutes, on roulait avec des rizières, quoi. Donc incroyable, magnifique en plus. Mais en plus, on savait où on allait parce que tu avais déjà eu un feedback de d'autres volontaires qui étaient allés avant. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même assez structuré, quoi. Donc tu pars pas non plus je ne sais où avec je ne sais qui. T'as un suivi derrière et c'est sympa, quoi. Vraiment.
Je vais terminer par les petites questions un peu traditionnelles par lesquelles j'aime bien
Ouais.
finir. Alors la première, ça, je commence à la poser, je la posais pas trop avant, mais je trouve qu'elle permet de savoir un peu dans quel état d'esprit sont les gens et quels sont un peu leurs rêves. Si je te donne 15 000 euros, là je te fais un transfert PayPal, qu'est-ce que
Ouais.
tu fais avec? Sachant que tu as déjà fait un tour du monde, est-ce que tu
Oui.
repars ou est-ce que tu fais autre chose justement?
Alors oui, je repars tout de suite, parce qu'en fait, si je repars pas, c'est parce que j'ai plus d'argent là.
Ah d'accord, et peut-être, et
C'est pour ça
Marion,
que.
tu embarques Marion?
Oui, alors Marion, elle finit son master et je pense que demain on va repartir. Elle fait une alternance et moi je vais bosser pendant un an. Et l'objectif qu'on a, si tu. Alors, c'est une très très bonne question. Et puis d'ailleurs, si tu as 15 000 euros à me filer, je les veux bien, ça va bien m'aider. Parce que en fait, ce qu'on aimerait avec Marion, c'est refaire un tour du monde d'ici un an ou deux. Mais là, pour le coup, avec un vrai projet derrière. En fait, on
Eh
aimerait
ben c'est
créer un
ça, Thomas, c'est la
projet.
question que j'allais te poser. Pourquoi tu voulais repartir justement pour un
Alors, en fait,
projet?
nous, ce qu'on aimerait, c'est créer un projet associatif avant de partir, donc récolter des fonds. Le projet, je t'avoue qu'on ne l'a pas encore tout à fait défini, même si on a un petit peu des idées, mais ça sera forcément dans l'éducation, en fait, ça c'est sûr. Après, vers quel objectif clair et net on se dirige, je ne sais pas encore. Mais on aimerait récolter des fonds pour ensuite partir. Et dans tous les pays où on va aller, avec les fonds qu'on a récoltés, créer des écoles ou je sais pas moi, créer une école de foot ou je sais pas, enfin il y a plein de trucs à faire, quoi. Donc si tu me donnais 15 000 euros aujourd'hui, je m'en servirais vraiment pour refaire un tour du monde et créer des choses sur place et apporter peut-être encore un petit peu plus que ce qu'on a pu apporter durant ces 9 mois aux gens.
Génial. Alors, je vais réfléchir sur les 15 000 balles du coup. Je vais voir. Je vais voir. Si je te file les clés de la DeLorean et que tu peux remonter dans le temps pour
Ouais.
revivre un seul des moments de ce bénévolat au Zambie, et
En
qui n'est
Zambie,
pas
ouais.
celui où le gamin il est venu dans tes
Ouais.
bras, qui n'est pas celui-là. Ce serait lequel? Et encore une fois, c'est pas besoin d'être le plus fort ou le plus fou, le plus triste, hein.
Je pense que c'est juste être à l'entraînement de foot avec les adultes avec qui j'étais en fait, parce que voilà, encore une fois, moi, le coaching de foot, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pouvoir, du coup, en fait, c'était incroyable pour moi parce que j'avais en face de moi des athlètes. Hein, alors, c'est des athlètes, j'exagère un petit peu, mais malgré tout, vu leur physique, on peut appeler ça comme ça, je pense. Donc, avec des grosses capacités physiques, mais qui n'avaient aucune compétence technique ou tactique. Et donc, en fait, moi, j'ai vraiment pu, je pense, en l'espace d'un mois, leur apporter beaucoup de choses par rapport à ça. Et donc, si je devais revivre un moment, ça serait juste revenir sur ce terrain de foot à 15h, 15h30, être avec mes joueurs et puis remettre mes séances en place, leur apprendre un petit peu, enfin, les coacher avec ma façon de faire, les voir me sourire, les voir me taper dans la main, m'appeler coach, comme ils me disaient, avec leur grosse voix parce qu'ils étaient hyper respectueux vis-à-vis de moi. Ça, c'était incroyable aussi. Et voilà, quoi, juste ce moment-là. Et juste pour revenir sur une question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport au moment fort aussi, c'est possible de sponsoriser, vous savez, des enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à l'école, parce qu'il ne faut pas croire, mais même si c'est des pays où la vie est peu chère, les écoles sont chères partout aujourd'hui, même à Bali par exemple. Donc nous, avec Marion, on sponsorise une petite Deva, elle s'appelle Deva, elle a 9 ans. Ça nous coûte 20 euros par mois, donc je pense que je dis pas, ça reste une somme, mais c'est quand même, je pense, abordable à beaucoup, enfin accessible, pardon, à beaucoup. Et elle, ça va lui permettre d'aller jusqu'à au moins le lycée, et après on verra comment on fait, si on continue avec elle ou pas pour la suite, l'université. Mais en tout cas, je sais que sans ces 20 euros par mois, je ne pourrais plus y aller d'ici 2 ans à l'école.
Mais c'est bien
Parce que.
aussi parce qu'il y a des gens qui ne pourront jamais faire de bénévolat ou n'ont pas le temps, pas l'argent, pas forcément l'envie.
Ouais.
C'est une autre façon. Et tu le fais via quelle plateforme ça? Ou via de quelle façon?
Bah en fait, c'est une petite qu'on a avec qui on était, qui était à l'école de Bali où on était, et on a eu un lien très très fort, tout de suite un contact très très fort avec elle. Et donc, ses parents nous ont invités chez eux. On s'est rendu compte vraiment de la précarité dans laquelle ces gens-là vivaient, surtout que c'était le début du tour du monde en plus, donc on n'avait pas encore beaucoup de recul. Et quand on a parlé avec la directrice de l'école qui nous hébergeait, elle nous expliquait qu'en fait, voilà, cette jeune fille ne pourrait plus forcément aller à l'école d'ici 2-3 ans parce que les frais de scolarité seront trop élevés. Donc aujourd'hui, l'école lui coûte 6 euros par mois. On lui donne 20 euros en fait pour financer, pour anticiper ses futurs frais de scolarité à venir, quoi. Donc elle met 14 euros par mois de côté tous les mois, et puis voilà, comme ça, elle va arriver à une certaine somme qui lui paiera ses futures années d'études. Mais donc tout ça pour dire que c'est via l'abeille en fait, hein. C'est via l'abeille, ou alors après, je pense qu'il y en a aussi sûrement d'autres, mais
Mais c'est
nous,
à
c'est
faire,
via
en tout cas,
l'abeille.
c'est quelque chose à prendre en considération si en plus on n'a pas d'appétence à aller tuer nous-mêmes sur place. Très
Sur
bonne
place.
chose. Dernière question, Max.
Oui.
Si tu devais mettre une citation, une punchline ou une phrase de ta création sur ton fond d'écran d'ordinateur qui serait là à tout jamais et que tu devais te prendre dans la gueule tous les matins sur le reste de ta vie sur cet ordinateur, laquelle ça serait?
Alors, ça serait une citation de Sylvain Tesson que
Ok.
j'aime beaucoup.
Ouais.
Ça serait la vie d'un homme ne devrait être rien d'autre que l'hommage rendu à ses rêves d'enfant.
C'est très joli. J'aime beaucoup. On me l'avait pas sortie celle-là. Elle est très poétique. Ça,
J'aime
ça.
beaucoup aussi.
Eh ben écoute, parfait. Max, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir partagé cette expérience avec autant de sincérité. Et franchement, je pense que ça en a inspiré plus d'un et plus d'une. En tout cas, j'espère. C'est comme tu dis, pour moi, je pense que c'est une nouvelle, vraie façon utile de voyager, qu'avoir en tout cas une implication, que ce soit une partie du voyage ou tout le voyage en fait, mais avoir une implication dans le milieu associatif ou dans le bénévolat, parce que on va pas se le cacher aujourd'hui, le voyage, on le sait, ça a de plus en plus d'impact néfaste sur la planète, et on le voit, enfin c'est, ça devient omniprésent, et je pense qu'en ayant en abordant le voyage de cette façon-là, on peut commencer à le rendre vraiment positif. Parce que, un, ça fait changer les mentalités. Et un, on n'est plus dans le consumérisme, mais on est dans l'altruisme. Et je pense que si on veut continuer de voyager, sans avoir, en faisant des dégâts auprès sur la planète, il va falloir qu'on s'y mette de plus en plus. Donc, Max, un grand big up, un grand merci. Je t'envoie plein de belles ondes pour la suite en espérant que tu repartes très vite. Internaute, il y a toujours quelque chose qui nous fait super plaisir, moi les intervenants, c'est quand tu fais une petite dédicace en story. Dis-nous ce que t'en as pensé. N'hésite pas à mettre ou juste nous montrer ce que t'étais en train de faire pendant que t'écoutais le podcast, que ce soit faire ta vaisselle, ton footing ou peut-être une rando au fin fond de l'Amazonie, j'en sais rien, parce que ça arrive, hein, vraiment. Donc n'hésite pas à nous taguer, ça me fera très plaisir. Max, moi je te dis à très vite et encore merci.
Merci à toi Alex, merci beaucoup.